Ben, habituez-vous, parce qu'on l'entendra souvent. À compter du 12 juillet, il sera avec Marie-Claude Lavallée dans le cadre du Québec maintenant. Il s'agit d'Alexis Nantel, qui est aventurier alpiniste. Il retour de son ascension du mont Denali. C'est quand même le plus haut sommet d'Amérique du Nord. C'est en Alaska, ça, en plus, Alexis.
Oui. Plus haut sommet d'Amérique du Nord, 6190 mètres d'altitude, oui.
D'où t'es venu l'idée? Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, on ne faut pas semblant de pas se connaître.
Ça fait un bail.
T'as plus. Oui, mais c'était en 2007.
Oui, c'est même, ça, exact.
2007 déjà. T'étais un homme d'affaires.
Oui.
Qu'est-ce qui a fait le changement chez toi?
Bien, je pense que je suis toujours un homme d'affaires, puis ça va rester en moi, mais j'ai décidé de simplement mettre de l'avant davantage ma passion. Mm-hmm. Et ben, pour ce faire, j'ai commencé à développer un petit peu mon brand personnel, puis j'ai travaillé à travers les médias sociaux, j'ai travaillé à me faire connaître, et puis j'ai débuté à la radio régionale il y a 3 ans. Et ça m'a amené à faire d'autres activités, d'autres aventures, puis d'autres montagnes surtout.
Et t'amener à faire une émission un peu plus recherchée, là. T'as Alexis le randonneur, entre autres, à TVA Sports.
Oui, exact. Une production d'éco-images, donc une de mes productions. Ça vient de débuter, ça fait une semaine à l'antenne de TVA Sports. Donc à tous les samedis et dimanches, le week-end, TVA Sports 2, entre autres 11h30 le dimanche. Une émission de rando. Mm-hmm. Parce qu'au départ, avant de devenir alpiniste, souvent on débute par la randonnée et c'est ce qui nous donne la piqûre. On va aller un petit peu plus loin, on va en faire un petit peu plus. On intègre davantage de techniques et puis ben là, on décide de s'attaquer à des plus hauts sommets, des treks d'altitude d'abord, puis ensuite des treks où on va intégrer un peu plus de techniques alpines.
Oui, mais à ma souvenance, c'était déjà casse-cou là, à l'époque. je ne sais pas si c'était au moment où tu l'avais fait ou tu étais sur le point pour le Kilimanjaro, entre autres. Toi, l'altitude, pas de problème avec ça. Le trekking en hauteur, pas de trop.
Oui, bien, ça, on le sait jamais, hein, François. moi, ma première expérience, ça a tellement bien été que j'ai eu envie de récidiver. Ce que j'ai fait tout de suite, j'ai préparé une deuxième expédition l'année suivante sur l'Elbrus en Russie, dans le Caucase. Et puis, ça s'est enchaîné comme ça avec le temps.
C'est une grosse montagne, ça, l'Elbrus.
L'Elbrus, oui, c'est un 5 000 mètres, 5895. C'est pas vrai, ça, c'est le Kilimanjaro, 5600 mètres. Oui, on est toujours en haute altitude, évidemment, manque d'oxygène. Ça demande une préparation, de la logistique. Mais
comment on se prépare pour faire de l'alpinisme de façon normale, puis en plus, faire un show de télé ou te préparer mentalement à faire un show de radio?
Oui, ça fait bien des affaires à faire.
Ça fait beaucoup de choses, là.
Ouais.
Parce qu'on a vu des choses arriver, malheureusement. C'est vrai, tu vas dire, ouais, mais ça arrive dans les films, mais ça arrive pour vrai aussi.
Ouais.
Faut être prudent.
Ouais, faut pallier, faut prévoir le plus possible, faut planifier. Je pense que c'est le mot juste. Mais évidemment, il y a des choses qui peuvent arriver. Hein. On a entendu des gens mourir dans des avalanches, par exemple. La montagne aussi.
On n'a pas besoin d'aller au Kilimanjaro pour ça. On l'a vu dans la région de Vancouver.
Exactement, dans l'Ouest. Donc, non, il faut bien se préparer. Je pense que c'est le secret. Il faut limiter les risques au maximum lorsqu'on fait de l'alpinisme comme ça, de haute altitude. Mais évidemment, il y en a toujours. Mais c'est comme prendre sa voiture le matin puis aller au bureau. Là, il peut nous arriver un grave accident aussi.
Je comprends.
D'ailleurs, on arrive pas mal plus en voiture qu'en alpinisme.
Ah oui, mais malheureusement, il y a des cas tout à fait exceptionnels où c'est un petit peu plus difficile. Mais il y a quand même des activités qui existent là-bas pour le mont Denali, en tout cas, où on dit qu'il y en a au moins 5 là, pour le temps. Mettre plein les yeux. Là. C'est quoi? Le ski en haute altitude? Parce que tu peux atterrir là. Ben, pas atterrir, mais tu te fais déposer en avion avec tes skis.
C'est ça. C'est le petit Cessna, des Beavers là, qui viennent nous déposer sur le glacier. C'est des avions avec des skis qui sont vraiment équipés pour ça. C'est des pilotes de brousse, hein, en fait. Alors, ils nous déposent sur le glacier, c'est généralement autour de 2000-2200 mètres. Et là, on peut commencer une ascension, mais il y a beaucoup de gens qui vont là uniquement justement pour faire des descentes de skis alpins en altitude. Il y en a qui vont là pour ouvrir ou faire des voies vraiment de technique alpine. Là. Ça veut dire, par exemple, de l'escalade mixte, roche, neige, glace. Et il y en a comme moi qui vont faire la route, la West Buttress, qui est la route, disons, normale, la voie normale, la plus achalandée en période d'ascension et les, probablement la plus facile aussi, là, c'est pour ça, il faut se le dire, même si ça reste quand même très engageant comme montagne pour faire le sommet.
Est-ce que ça fonctionne comme, là, on est habitué de voir l'Everest, là, le camp de base 1, camp de base 2, 3, puis là, le sommet. Est-ce que ça fonctionne de la même manière?
Oui, c'est le même principe et la raison est simple, c'est que d'abord, sur le Denali, en plus, comparativement, par exemple, à l'Everest, où on a des Sherpas qui vont transporter du matériel, là-bas, généralement, on est en autonomie. Donc, on doit traîner 125 livres de matériel, nourriture, équipement, réchaud, parce qu'on campe aussi en même temps. Et chaque personne, donc, traîne ça dans un traîneau, sac à dos, et évolue sur le glacier. Et donc, on veut aller faire des portages pour éviter de monter avec la pleine charge et en même temps s'acclimater à l'altitude. Donc, souvent, on le dit, là, en montagne, pour s'acclimater, on monte haut et on revient coucher bas. Et par la suite, ben, on peut remonter complètement pour le camp supérieur. Mais c'est la même chose. Il y a 5 camps qui nous mènent jusqu'au sommet ensuite.
Est-ce que ça nous oblige aussi à traîner des blocs d'oxygène ou encore des choses comme ça pour être capable de mieux respirer?
Non, on ne va pas. En fait, généralement, c'est
à
sur
6200
les...
200 mètres, là, ça commence à être rare ici.
En général, l'oxygène va être utilisé sur des 8000 mètres et plus. Okay. Là, à partir de 7400 mètres, où on dit que c'est la zone de la mort, là, où le corps ne se régénère pas et le taux d'oxygène est le plus bas, là, on va utiliser de l'oxygène. Mais sur une montagne comme le Denali, par exemple, c'est pas le cas. Même si on dit qu'au niveau de la latitude, parce que bon, de la façon que l'atmosphère elle est faite, ça équivaut peut-être à peu près un 6000 mètres en termes d'oxygène. Mais même sur la Aconcagua, par exemple, qui est un 6900 mètres en Argentine, on n'utilise pas.
Bon, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup de noirceur. Là. On vit quasiment 24 heures sur 24 à la clarté. Il y a à peine 2 heures de noirceur. Si c'est noirceur, il y a.
Oui, ben, disons que c'est ça exactement. Ça sombrille.
Parce que là,
t'es
carrément dans le cercle arctique.
Oui, c'est le cercle arctique. On parle de 22 heures vraiment de clarté sur 24.
Comment on s'habitue à ça?
Parce que là, je pense qu'on s'habitue
pas. Il y a deux ou trois choses à faire. Là. Ouais. D'abord, t'habituer donc à la hauteur, donc à un oxygène qui est plus faible. Puis en plus, il faut que tu t'habitues à la clarté.
Oui. En fait, c'est un avantage, de un, parce qu'on peut évoluer à peu près à tout temps de la journée sur la montagne, peu importe notre condition, puis la météo, parce qu'on jongle beaucoup avec la météo. C'est une montagne qui est généralement difficile pour ça. Donc, c'est un avantage de profiter d'autant de clarté, autant d'heures dans une journée. Mais en même temps, évidemment, quand on veut se reposer puis reprendre des forces, bien, on dort et on sent quand même la clarté. Donc, ça, c'est plus difficile, mais il faut vivre avec. Mais ça ne dure pas longtemps. On est là 17-18 jours généralement.
Ben quand même, c'est assez pour te mêler. Là.
Oh oui, puis à la fin, c'est certain que la fatigue s'accumule aussi, évidemment, à cause du physique, le fait qu'on ne dort pas. Puis en altitude, on ne dort pas beaucoup de toute façon. Là.
Ah
c'est-à-dire, généralement, on va faire des...
C'est quoi, en raison de l'excitation? Ou...
C'est vraiment à cause de l'oxygène qui se raréfie. Il y a certains phénomènes dans le camp, puis donc on va dormir des 2 heures, une
comment
heure.
Comment on paye ça? L'alimentation se fait comment à ce moment-là?
Sur la montagne, on mange, je vais te le dire, très gras, très sucré. On veut aller chercher un 4 à 5 000 calories par jour.
Et Seigneur, le tablette, t'auras pas là.
Non, c'est grave, là, juste d'y penser. Puis, oui. D'ailleurs, il y a les problèmes d'estomac qui viennent avec ça aussi. Mais non, on mange beaucoup parce qu'on dépense énormément de calories là, tous les jours en termes d'effort puis de combattre le froid. Alors, non, ça, c'est... Il n'y a pas
En termes de liquide, est-ce que ça nécessite plus de liquide à ce moment-là?
Oui, nous, ça, c'est une autre des difficultés. C'est-à-dire qu'on passe énormément de temps à faire fondre la neige pour boire. C'est environ 10 litres d'eau par personne.
Pas par jour?
Oui, bu, mais aussi dans la nourriture, contenu dans la nourriture.
Ah, okay.
Mais donc, ça veut dire qu'on doit faire fondre une centaine de litres de neige par personne à chaque fois là, pour obtenir ces 10 litres l'eau d'eau, pardon.
Bon, bien ça, au moins, ça fait une période de repos. Ça coûte combien faire une expédition comme celle-là? Là?
Généralement, si vous magasinez des agences, on parle de 10 à 12 000 $ US. Alors, parce que ce sont que des agences américaines que vous pouvez sélectionner pour le faire. Mais si vous y allez comme moi, en autonomie, vous préparez votre voyage, vous pouvez vous en tirer pour 3, 4, 5 000 $ en dehors de l'équipement, bien sûr.
Oui, mais là, ça veut dire que c'est presque le billet d'avion, là, puis de la nourriture.
Oui, billet d'avion, c'est 1 000 $.
Là, tu arrives là, puis tu grimpes comme Dieu.
Oui, bien, on a rendu c'est là-bas.
C'est pas comme l'Everest, d'abord. L'Everest, ben, c'est plus réglementé que ça.
C'est la même chose là-bas. On doit obtenir un permis, on doit assister à une formation avec les Rangers. Ils vont valider aussi quand même nos techniques, ce qu'on a fait comme dans le passé, comme montagne aussi. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Et s'assurer aussi maintenant que la montagne va rester propre. Aux États-Unis, ils sont très, très, très sévères. On doit absolument tout ramener et ça inclut tout ce que vous pensez.
Non, je comprends, là, mais c'est parce qu'il y a eu tellement d'Estlande au niveau international, entre autres au niveau Everest, au niveau Kilimanjaro, On a entendu également pour la Aconcagua, c'est comme ça qu'on le prononce en Argentine.
La Aconcagua.
Ouais, la Aconcagua, où on reprochait justement aux alpinistes de ne pas ramasser leur détritus. Et malheureusement, ça fait d'abord mauvaise presse, puis deuxièmement, ça risque de coûter plus cher aussi pour être capable de grimper par la suite.
Oui, et c'est devenu de plus en plus sévère. Il y a des corvées qui s'organisent aussi, mais même sur l'Everest, là, de plus en plus, c'est réglementé, c'est suivi. Mais évidemment, là-bas, c'est un peu différent parce que les gens locaux ont besoin de ça pour vivre. C'est vraiment le principal gagne-pain. Ils ont des besoins primaires à couvrir, se loger, se nourrir, se vêtir. Mm-hmm. Donc, évidemment, la conscience est moins là encore, mais c'est grandissant quand même néanmoins là-bas.
C'est quoi ton prochain gros coup que tu veux faire?
Oui, on me la pose souvent. C'est certain que là, j'ai beaucoup de projets avec Alexis le randonneur à TVA Sports. J'ai plusieurs choses, les chroniques radio. Mais je pense, j'ai eu l'invitation de mon bon ami François-Guy Thivierge à Québec là, d'aller faire le Gacherbrum 2, qui est un 8000 mètres au Pakistan. J'y songe. Le problème dans ces cas-là, c'est pas la montagne, c'est pas le coût, c'est le nombre de jours partis. Parce que là, on parle d'une quarantaine de jours absents.
Okay.
Alors, il faut s'organiser, mais c'est en tête. Là, je jongle avec ça.
Non, un K2, ça ne te tourne pas un jour?
K2, non. C'est... je ne ferais pas ce type de montagne-là.
Ah non?
Qui sont très, très, très risquées. Le Gacherbrum 2, c'est quand même la 13e plus haute des 8000 mètres et c'est quand même un sommet qui est très sécuritaire.
OK. Et... c'est quand même dispendieux. Là, ça va prendre des permis spéciaux. C'est pas un pays.
Environ. Au Pakistan, c'est un pays qui cherche beaucoup à avoir des grimpeurs. Donc, les prix sont stables, voire en baisse. On parle à peu près de 10 000 $ pour aller faire cette montagne-là. Donc, c'est quand même pas trop dispendieux.
Et là, à ce moment-là, on peut le rentabiliser quand même avec la télé et puis tout ça.
Évidemment, il y a des choses qu'on peut en tirer. Puis il y a des commanditaires pour ce genre de montagne-là qui sont plus rares, qui veulent se joindre là. Puis aujourd'hui, les commanditaires, bien évidemment, ils ne veulent pas juste leur logo sur un drapeau au sommet. Ils veulent autre chose. Ils veulent des conférences pour leurs employés. Ils veulent un paquet de trucs autour. Mais ça se travaille avec eux aussi.
Mais tu en fais aussi de temps à autre?
Oui, je fais quelques conférences par année, effectivement, dans les écoles et dans les, dans les entreprises. J'allais dire, parlant de drapeaux, je voulais juste mentionné, j'ai déployé le drapeau de Chaîne de vie, qui est un organisme qui fait la promotion auprès des jeunes dans les écoles pour le don d'organes. Et on était fiers, nous, l'équipe, de pouvoir soutenir cette cause-là.
Et vous pouvez le suivre, faites comme moi, donc suivez sa page Facebook. Hein, c'est comme ça qu'on se parle de...
C'est facile. Alexis Nantel. Oui. Et puis vous avez mon Instagram, vous avez mon site web alexisnantel.com. Puis évidemment, Alexis le randonneur maintenant à TVA Sport.
À TVA Sport. Ouais. Ben, Alexis, merci beaucoup encore une fois, puis surtout bon succès.
C'est un plaisir, François, bientôt.
Au plaisir de te rencontrer du 12.
Oui, ça marche.
Juillet, bien sûr, 18h19. Oui.